Notre prochain orateur est Jean-Daniel Dubois. Je remercie vivement d'avoir accepté de se joindre à nous. Quand nous avons pensé à cet intitulé, Gnose et Gnosticisme, nous avons immédiatement pensé à lui, car c'est vraiment un des principaux spécialistes de cette question du gnosticisme. Jean-Daniel Dubois, après avoir fait tout un parcours formé par la théologie protestante, a étudié le syriaque, le copte, d'autres langues, et puis toute les courants en question que nous connaissons mieux après les découvertes de Nag Hammadi, et est devenu donc un des principaux éditeurs et commentateurs de ces textes. Alors, ses publications sont extrêmement pointues, et en général publiées dans des revues et des ouvrages très spécialisés. Néanmoins, ont été publiés des livres comme Jésus apocryphe, ou la figure du Christ à travers toute la palette des écrits apocryphes et décrites, ou alors, encore plus accessible, chez Librio, Apocryphe chrétien. Jean-Daniel Dubois est en effet des spécialistes des apocryphes chrétiens avec, on en reparlera au fil des interventions. Un grand merci.
Merci de m'inviter à écouter Christian Jambet. On pourrait imaginer une réincarnation d'un Moula Sadra qui viendrait aujourd'hui nous aider à découvrir et redécouvrir les textes des gnostiques chrétiens anciens. Qui aurait dit que le 6 avril 2006, on puisse découvrir sur Internet le texte copte d'un nouvel évangile apocryphe comme l'évangile de Judas? Qui aurait pensé, vers les années 70, qu'on découvre en Égypte un codex grec miniature qui tient dans une petite boîte d'allumettes, le codex manichéen de Cologne, un codex de 220 pages qui tient dans cette boîte d'allumettes et qui raconte la biographie du prophète Mani? Qui aurait imaginé que vers décembre 1945, dans la petite ville égyptienne de Nag Hammadi, on mette la main sur une douzaine de codices de textes coptes qui renouvellent fondamentalement la connaissance directe des mouvements gnostiques anciens? Il me revient d'évoquer aujourd'hui quelques monuments littéraires caractéristiques de cette redécouverte, et je ne parlerai pas d'un fragment copte intitulé « Évangile sur la femme de Jésus », évoqué à Rome dans un congrès en 2013. Après plusieurs années de controverses entre collègues, il s'avère que ce soi-disant évangile de la femme de Jésus n'est qu'un faux fabriqué dans les couloirs du séminaire égyptologique de Berlin dans les années 80. Nous vivons à l'heure actuelle une période tout à fait passionnante, analogue à celle de la Renaissance, où l'on redécouvre des textes de l'Antiquité et où l'accès au savoir sur les mondes anciens est démultiplié par des expositions, des colloques, des publications, des documents accessibles sur Internet. Je sors d'un colloque ces deux derniers jours avec mes collègues de Québec sur ces documents de Nag Hammadi. Ces documents sont maintenant accessibles, en traduction française, dans un volume de la Pléiade chez Gallimard, écrit gnostique 2007. Mais ils ne sont pas tous commentés. Il faudra sans doute encore attendre quelques années avant que les opinions sur leur interprétation deviennent des opinions communes et partagées par la communauté scientifique. On peut néanmoins dire en quelques mots toute l'importance historique de ce nouveau matériau à disposition des historiens. Les gnostiques anciens représentent ces courants de pensée divers dans la période qui va dans les toutes premières années du christianisme jusqu'à la fixation des idées orthodoxes avec les grandes assemblées conciliaires des 4e et 5e siècles. Donc, quand nous parlons des gnostiques ce matin, des gnostiques chrétiens, je m'intéresse particulièrement à ces traces littéraires entre le second et le quatrième siècle. L'histoire du christianisme ancien atteste de combats violents entre les milieux en passe de devenir orthodoxes et les milieux gnostiques. Les auteurs chrétiens qui ont réfuté les positions des gnostiques, ce qu'on appelle les hérésiologues, ont transmis des informations sur les milieux gnostiques. Parfois, ils ont cité des extraits d'ouvrages attribués aux gnostiques. Mais il faut reconnaître que jusque vers la fin du XIXe siècle, les seules informations sur les gnostiques anciens étaient en fait tirées des œuvres des réfutations des hérésies. Et voici qu'à partir du XXe siècle et jusqu'à maintenant, grâce aux documentations nouvelles, on peut faire parler les vaincus de l'histoire du christianisme à partir de leur propre documentation. Nous sommes donc contraints aujourd'hui à proposer une lecture critique des textes anciens, ceux des gnostiques et ceux de ses adversaires. Et cette lecture critique doit permettre une évaluation croisée des sources directes des gnostiques et des sources indirectes de leurs opposants. C'est pour ça que j'aimerais commencer par, moi aussi, quelques précisions terminologiques avant d'aborder la découverte des textes copes de Nag Hammadi et présenter quelques grands courants de pensée à partir de quelques exemples. Alors, Christian Jambet a déjà ouvert la voie à la définition de ce que pourrait être le gnosticisme, et donc je m'inscris absolument dans cette définition, cet effort de définir ces groupes et ces mouvements de pensée qui ont essaimé dès le second siècle de notre ère, dans les communautés chrétiennes et parfois dans ses marges. Cette désignation gnostique n'est sans doute pas choisie par les gnostiques eux-mêmes, mais par leurs adversaires, pour illustrer leur mode de vie et leur mode de pensée. On peut imaginer un groupe de gnostiques sur le mode d'un cercle philosophique antique réuni autour d'un maître à penser, ou parfois d'un gourou. Comme l'a très bien montré Alain Bouluec dans son fameux livre « La notion d'hérésie », les hérésiologues ont eu tendance à caricaturer les groupes des gnostiques en les faisant passer pour des philosophes, afin de souligner le caractère non chrétien de leurs préoccupations. Il faut donc se méfier d'une utilisation un peu trop stricte de ce modèle, ces cercles philosophiques. Et pourtant, ces cercles philosophiques de gnostiques pouvaient très bien exister au sein même des communautés chrétiennes, comme on peut le voir avec des témoignages comme Justin à Rome, au milieu du second siècle, ou Clément d'Alexandrie, dont on va entendre parler tout à l'heure, dans la capitale intellectuelle de l'Égypte d'alors. Les découvertes des textes gnostiques coptes au cours du XXe siècle a mis sur le marché de l'édition une série de textes nouveaux, et notamment des textes que l'on qualifie d'apocryphes. Je pense à l'Évangile selon Thomas, découvert dans le milieu francophone en 1959 à partir d'une édition par l'un de mes prédécesseurs, Henri-Charles Puech. Je pense à l'Évangile de Philippe, à l'Épître apocryphe de Jacques, aux Actes de Pierre et des douze apôtres, textes que l'on trouve dans cette collection de textes de Nag Hammadi. La catégorie de textes apocryphes recouvre en fait des réalités diverses. Les spécialistes des littératures bibliques parlent souvent d'apocryphes pour désigner les textes du canon des Écritures qui proviennent du judaïsme hellénistique, rédigés en grec à l'origine. Ils ont été progressivement transmis avec les textes de la Bible juive rédigés en hébreu. Je pense à Sagesse de Salomon, au Siracide, Tobie, à quelques additions grecques du prophète de Daniel. Mais il existe encore d'autres sortes d'apocryphes, souvent issus du judaïsme hellénistique et transmis par les premiers chrétiens. Aujourd'hui, avec les découvertes des textes juifs de Qumran dans le désert de Juda, ou des textes gnostiques coptes de Nag Hammadi, cette catégorie des écrits apocryphes s'est encore élargie. À l'origine, le terme renvoie à des textes cachés, secrets. Mais dans l'histoire des décisions conciliaires du IVe, Ve siècle, ce terme a finalement été progressivement assimilé à de la littérature secondaire, populaire, peu sérieuse, pour ne pas dire hérétique. Donc, bien que classés dans la catégorie apocryphe, certains de ses écrits rapportent des traditions très largement répandues et souvent tout à fait orthodoxes. Je pense à des traditions sur l'enfance et la nativité de Marie, aux traditions sur sa dormition, son absomption. D'autres textes apocryphes ont été diffusés dans des cercles très restreints, dans des provinces orientales de l'Empire romain, et certains de ces textes n'ont pas connu la notoriété que l'on connaît dans les anthologies de textes apocryphes aujourd'hui. Par exemple, les Actes de Simon et Théonoé, ou l'histoire de Joseph le Charpentier. Ces littératures apocryphes constituent un réservoir incroyable d'objets d'histoire, permettant d'avoir accès à des courants de pensée peu connus de l'histoire et des pratiques rituelles du christianisme ancien, ou des courants philosophiques et théologiques antiques. Et c'est ce que nous révèle en particulier la découverte des manuscrits coptes de Nag Hammadi. On s'accorde à dater la trouvaille de ces manuscrits gnostiques coptes de décembre 1945, bien qu'ils restent entourés encore de quelques zones d'ombre par manque de documents attestant les premiers instants de la découverte. Plusieurs dizaines d'années après cette découverte de manuscrits originaux, on peut dire que le grand public n'en connaît guère l'existence. La soif de reconstruire une histoire de la découverte n'a pas suffi à retrouver assez d'éléments probants pour convaincre toute la communauté scientifique. Toujours est-il qu'une reliure de cuir contenant plusieurs textes écrits sur papyrus aurait été découverte en décembre 1945, cachée dans une jarre, au pied d'une falaise du Djebel El Tarif, à quelques kilomètres de la petite ville de Nag Hammadi, en Haute-Égypte. Et cette découverte est le pur fruit du hasard, car le paysan auquel on attribue la trouvaille était en fait à la recherche d'engrais au milieu d'une tombe royale construite dans la falaise. Ce paysan est censé avoir apporté le codex à la maison pour le montrer à un maître d'école, copte, qui le fait parvenir au Caire pour examen chez un antiquaire. Et la rumeur se répand alors d'une découverte de manuscrits et peu après d'une découverte d'autres codices aussi exhumés qui circulent entre divers mains. Le premier achat d'un codex de Nag Hammadi remonte à 1946 pour le compte du musée copte du Caire. L'annonce officielle de la découverte a eu lieu dans la presse égyptienne le 10 janvier 1948 et le 20 février à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris par l'un de mes prédécesseurs, Henri-Charles Puech, accompagné d'un autre savant aussi aujourd'hui décédé, Jean Dorès. Plusieurs tentatives d'achat de ce lot de manuscrits échouent et c'est ainsi qu'un codex parvient à sortir d'Égypte pour être proposé à diverses institutions américaines, mais toujours sans succès. Ce codex qui est parti aux États-Unis revient en Europe à Bruxelles où un antiquaire réussit à convaincre Gilles Quispel d'Utrecht de faire acheter le codex comme cadeau d'anniversaire au psychanalyste de Zurich, Carl Gustav Jung, d'où le nom du premier codex de Nag Hammadi, le codex Jung. Plusieurs textes de ce codex seront alors publiés dans les années qui suivent, l'Évangile de vérité en 1956, un traité sur la résurrection en 1963, une épître apocryphe de Jacques en 1968 et un très long traité composé de trois parties, ce qu'on appelle le traité tripartite, un traité acéphale mais appelé traité tripartite, qui ne sera publié qu'en 1973 et 1975. Malheureusement pour la découverte, la crise politique du canal de Suez bloque l'accès aux manuscrits de 1952 à 1956. Entre-temps, l'ensemble de la collection est acheté pour le compte du musée copte au Caire, où elle se trouve aujourd'hui encore. En revanche, le véritable impact de la collection originale de ces manuscrits ne se fera sentir qu'à partir de 1959, avec précisément la publication de l'Évangile de Thomas. Publié pour la première fois dans une édition bilingue, copte français et puis progressivement traduit en anglais et en allemand, l'Évangile de Thomas ne cessera pas d'intriguer aujourd'hui encore. L'originalité de cet apocryphe réside en ce qu'il contient une collection de 114 paroles attribuées à Jésus. Certaines sont attestées par les évangiles canoniques, souvent dans une forme un peu différente. D'autres sont connues par des citations parallèles dans des textes des écrivains chrétiens anciens. Et d'autres encore sont absolument inconnues par ailleurs. Conservée en copte, cette collection de paroles attribuées à Jésus existe aussi sous forme de 3 fragments de codices différents en grec, ce qui illustre la très grande diffusion de ce texte apocryphe dans l'Antiquité. Dès les premières lignes du texte, l'évangile de Thomas se présente avec cette phrase de titre comme « collection des paroles secrètes que Jésus, le vivant, a dites et qu'a écrites Didyme, Didyme, Jude, Thomas ». En effet, la plupart des paroles rassemblées dans cette collection sont introduites par la formule « Jésus a dit » ou « Jésus dit », c'est-à-dire « Jésus a parlé à ses disciples, mais Jésus parle encore pour celui qui le lit par ses paroles rassemblées ». Et l'on doit à l'apôtre Thomas d'avoir rassemblé cette série de 114 paroles. Thomas représente ici la figure d'un disciple proche de Jésus. C'est la figure apostolique fondatrice de la région de Syrie autour de la ville d'Édesse. Et cet apocryphe original provient d'un milieu de sagesse issu du judaïsme hellénistique, dont la perspective vise à commenter les paroles des Écritures grâce aux paroles attribuées à Jésus. Si l'on revient maintenant à l'ensemble de la découverte des textes de la Nag Hammadi pour en tirer quelques traits significatifs, on ne connaît pas toujours dans le grand public la richesse et la variété des courants représentés par ces différents codices de textes coptes. D'un point de vue formel, le total des planches de papyrus conservées représente environ 1200 pages. Mais seules les quelques 1156 pages ont été écrites, inscrites, et plusieurs codices sont très mal conservés aujourd'hui dans la collection des 13 codices conservés, surtout les codices 9 à 13. La langue de ces papyri constitue l'une des formes de la langue égyptienne, écrite avec des lettres grecques en majuscules, le copte. Les textes sont attestés soit dans le dialecte saïdique du sud de l'Égypte, soit en lycopolitain, une forme variante du dialecte harpimique de la région de Lycopole en Moyenne-Égypte. Dans tous les cas, la forme de langue utilisée manifeste des signes certains d'ancienneté, et ainsi l'ensemble de cette collection permet d'envisager des questions nouvelles pour la grammaire même de ces dialectes coptes aujourd'hui. Du point de vue de l'usage des titres dans les textes anciens, cette collection est aussi très intéressante, car plusieurs textes sont anonymes, comme l'Évangile de vérité ou le traité tripartite. D'autres comportent un titre en fin de texte, comme le deuxième logos du grand 7, du codex 7. D'autres possèdent un titre en début de texte, comme la paraphrase de Sem, toujours du codex 7. D'autres encore possèdent un titre en début et en fin de texte, comme l'Apocalypse de Pierre, toujours du codex 7. Cette variété est significative du temps où l'on est passé de la pratique de transmettre les textes sous forme de rouleaux de papyrus à la pratique de mise en forme des textes dans une reliure, une sorte d'ancêtre du livre, un codex, ancêtre du livre moderne. Dans le cas des rouleaux de papyrus, on mettait le titre à la fin du texte pour éviter que le titre ne se perde, la première planche du rouleau étant bien sûr beaucoup plus sollicitée que la dernière. Tout ceci permet, en fait, de dater les originaux grecs de ces textes coptes de manière relative au deuxième et au troisième siècle de notre ère. La datation approximative de la traduction des textes grecs en copte pour Nag Hammadi doit être en effet située vers la fin du IIIe siècle ou début du IVe siècle. Il existe aujourd'hui une remise en question de ces datations, car certains collègues, en particulier en Norvège, mais aussi aux États-Unis, ont cherché à montrer que quelques textes provenaient du IVe siècle ou même un peu plus tard que du IVe siècle. C'est une tendance de la nouvelle philologie aujourd'hui qui s'intéresse à étudier un texte d'abord à partir de l'étude de son support. Ça a tout son sens, mais j'avoue que je ne partage pas du tout cette nouvelle tendance de la recherche qui passe en fait sur l'existence de gnostiques anciens au IIe et au IIIe siècle en grec. Quant à la fabrication des manuscrits coptes, il a été démontré depuis longtemps que certains fragments conservés dans les reliures du Collège 7, précisément, dataient des années 343-348, et qu'on pouvait du coup situer la datation de la copie copte des textes gnostiques dans la deuxième moitié du IVe siècle. L'apport le plus significatif de la collection des textes de Nag Hammadi consiste donc en une masse de documents nouveaux, inconnus depuis l'Antiquité, ou simplement évoqués de manière allusive par des auteurs anciens. L'évêque Irénée de Lyon, par exemple, dans son « Contre les hérésies », mentionne l'existence d'un évangile de vérité, dont les groupes de gnostiques valentiniens pouvaient user. On peut alors estimer que le texte copte anonyme de Nag Hammadi, qui commence par ces mots « l'évangile de la vérité et joie », etc., dans le Codex 1-3, correspond à la traduction copte d'un texte grec que mentionne Irénée. De même pour l'évangile selon Thomas, on ne possédait pas de forme analogue à celle que l'on a maintenant aujourd'hui en copte. On connaissait l'existence de cet apocryphe par de nombreuses citations chez les auteurs anciens, mais nous n'avions pas une collection de quelques 114 paroles, comme aujourd'hui. Ceci dit, pour la plupart des autres textes, voici quelques dizaines d'écrits nouveaux que l'on découvre et qu'on le commente encore maintenant, et qui, pour vous donner une idée, correspond à un volume de la Pléiade de quelques 2000 pages. Dans les premières années de la découverte, on pensait naïvement que ces textes nouveaux émanaient de groupes qualifiés d'hérétiques par les milieux orthodoxes dans le christianisme ancien. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de comparer les textes entre eux, de raccrocher certaines préoccupations philosophiques et religieuses à des textes et des milieux connus par ailleurs dans l'Antiquité. D'une manière générale, on peut dire que cette découverte permet de relire les autres textes gnostiques connus, comme par exemple un grand catéchisme gnostique issu de la tradition joannique ésotérique, l'apocryphe de Jean, connu par trois versions différentes dans la collection de Nag Hammadi, mais aussi transmis par un codex gnostique conservé aujourd'hui à Berlin. De plus, les traités qui présentent les dialogues de Jésus avec ses disciples, comme l'évangile de Marie-Madeleine, aussi conservé à Berlin, ou le dialogue du Sauveur, ou l'épître apocryphe de Jacques, poussent les chercheurs à reconsidérer le grand traité gnostique conservé à Londres, la Pistis Sophia, près de 400 pages de textes, et les traités gnostiques d'Oxford du Codex Bruchianus. Autant dire que, grâce à la découverte progressive du contenu de ces textes de Nag Hammadi, on aborde aujourd'hui l'ensemble des mouvements et des milieux gnostiques avec leurs sources directes, et pas seulement avec les sources de Nag Hammadi, mais surtout avec un regard historique différent. Au début de l'histoire de la découverte, on avait pensé que la collection des textes de Nag Hammadi permettait d'être interprétée comme une série de textes hérétiques qu'il fallait connaître pour les combattre. C'est ainsi qu'on a envisagé ce regroupement de codexes comme provenant d'une bibliothèque monastique au cours du IVe siècle. Aujourd'hui, cette thèse n'est plus guère défendue Et on ne cherche pas à envisager la collection de ces textes comme si elle émanait d'un seul milieu intellectuel religieux. En effet, comment rendre compte de sa diversité par un principe unique ? On y trouve des évangiles apocryphes, comme je l'ai déjà dit, des épîtres apocryphes de Jacques, de Pierre, Philippe, des récits apocryphes sur les apôtres, des apocalypses de Paul, de Jacques, de Pierre, mais aussi des traités philosophiques comme Zostrien, Marsanès, Halogène, ou des récits sur la cosmologie de la réalité des archontes, sur l'origine du monde, des traités sur la conduite de l'âme, comme l'exégèse de l'âme ou les enseignements de Sylvain, et que dire même d'un fragment de la République de Platon, ou ligne 588B, 589B, pardon, ce fragment qui se trouve inséré dans le sixième codex et que l'on trouve à côté de textes hermétiques de la sagesse égyptienne. Excusez-moi. Ce fragment de la République de Platon est cité plusieurs fois par des philosophes comme Plotin dans l'Énéade 1.1.7 ou par Proclus dans son commentaire sur la République. Il devait être transmis dans des anthologies de textes platoniciens et peut sans doute être interprété par les gnostiques comme une exhortation pour l'âme enfermée dans un corps à choisir un mode de vie qui va combattre les passions et, comme dit le texte, piétiner les images de la bête. Dans ce même codex 6, on peut découvrir plusieurs textes hermétiques qui font partie du corpus des textes hermétiques, un traité de dialogue entre Hermès et son disciple, l'Ogdoade et l'Énéade, une prière d'action de grâce, un fragment du discours parfait. Dans le codex 12, on a même la traduction copte d'une collection peut-être christianisée de maximes d'un philosophe stoïcien, les sentences de Sextus à la fin du second siècle. De toute cette variété, on retiendra qu'il est sans doute difficile de fixer avec précision qui pouvait se procurer ou posséder une telle collection d'écrits si diversifiée. En revanche, on ne manquera pas de souligner combien il apporte d'étudier ces textes nouveaux pour redécouvrir des pans entiers de la culture de ceux qui ont pu écrire ou lire de tels chefs-d'œuvre littéraires. Si l'évangile de Thomas a complètement modifié le paysage des études sur l'histoire des traditions évangéliques, les recherches de Michel Tardieu et Pierre Hadot sur le traité gnostique copte zostrien ont définitivement transformé le panorama des recherches sur l'histoire de la philosophie aux alentours de l'école de Plotin à Rome, au milieu du IIIe siècle. En effet, Michel Tardieu a retrouvé dans ce traité zostrien une source philosophique sur le premier principe, qui est aussi attestée dans les œuvres d'un philosophe chrétien à Rome au IVe siècle, Marius Victorinus, et cette découverte fut rendue accessible par une publication en 1996 qui n'a pas cessé d'interroger les spécialistes de la philosophie antique sur les origines de cette source. Michel Tardieu envisage Numénius à la fin du second siècle comme auteur possible d'une telle source. Mais quelles que soient les hypothèses qui circulent à l'heure actuelle sur l'attribution faite d'un auteur de cette source, le traité zostrien, qui ressemble à une apocalypse chrétienne sur la montée de l'âme vers les cieux, fait dorénavant partie de l'histoire de la philosophie antique. Ce qu'on pouvait soupçonner depuis l'Antiquité par la biographie de Porphyre sur son maître Plotin, l'école de Plotin à Rome, qui inaugure l'histoire du néoplatonisme vers les années 263-270, comportait des gnostiques qui, je cite, « mettaient en avant des apocalypses de Zoroastre, de Zostrien, de Nicothée, d'Halogène et de Messos. » Je cite l'avis de Plotin au chapitre 16. On peut dire maintenant que les découvertes de Nag Hammadi attestent au moins deux traités de cette liste, Zostrien et Halogène. Et Plotin ne s'est pas privé de réfuter les positions des gnostiques dans une série d'ouvrages, dans cette série des traités 30 à 33, dont le dernier traité porte précisément le titre de « Contre ceux qui disent que le démiurge du monde est méchant et que le monde est mauvais. Le traité qu'on appelle « Contre les gnostiques » et qui vient d'ailleurs d'être republié aux éditions des Belles Lettres. Plotin avait même chargé l'un de ses disciples, Amilius, de réfuter le traité zostrien, ce qu'il aurait fait, selon Porphyre, dans une composition de 40 livres, malheureusement perdu aujourd'hui, alors que Porphyre était chargé, lui, de réfuter un traité de Zoroastre. Plotin s'en prend aux conceptions gnostiques sur l'artisan du monde en reprochant à ses adversaires d'être en fait de très mauvais philosophes platoniciens. Ne sachant pas interpréter correctement le traité du Timée de Platon sur la création du monde. Plotin critique les gnostiques dans leur façon de penser un modèle idéal de la création du monde à partir d'une terre nouvelle et étrangère, constituée à partir d'une inclination, je cite, divine permettant de créer le monde sensible. De plus, Plotin reproche aux gnostiques d'envisager des colonies par Okeiseis, des répliques, antitupoi, des mutations, metanoiae. Tous ces détails du scénario de la création du monde, tel que les gnostiques l'envisagent en commentant Platon, peuvent être identifiés maintenant dans des textes précis. Michel Tardieu a pu même montrer que le traité 33 contre les gnostiques citait un passage du traité zostrien qui renvoyait à l'inclinaison de la sagesse divine pour illuminer le monde avant la création du monde sensible. Autant dire que ce type de recherche aboutit maintenant à une prise au sérieux des arguments philosophiques des gnostiques dans leur débat avec les philosophes de l'école de Plotin et d'avant l'école de Plotin. Les philosophes, que l'on traite souvent de ce terme un peu délicat, médio-platoniciens. Certains ont pu montrer que les proximités des positions gnostiques avec des philosophes comme Numinius ou Alcinos au second siècle, dans leur façon de penser la transcendance divine et ses rapports avec le monde étaient en fait attestés par ces textes nouveaux. Si je prends l'exemple du traité halogène, on voit que cette recherche d'un Dieu transcendant correspond à une expérience spirituelle particulière qui passe par une vision. Et si vous avez un texte que j'ai fait circuler, c'est le texte numéro 1. Par une révélation primordiale de l'inconnaissable, comme si je ne le connaissais pas, je le connus et je reçus de lui puissance, ayant reçu en moi une force éternelle. Je reconnus celui qui existe en moi, il est trois fois puissant et la révélation de ce qui de lui ne peut être saisi. Et par une révélation primordiale émanant du premier principe, inconnu de tous, je vis le Dieu qui est au-delà de la perfection, ainsi que le trois fois puissant qui existe en tous. Bien avant l'expérience des pères du désert ou des moines de la Cappadoce au IVe siècle, on trouve dans ce genre de réflexion spirituelle des gnostiques une profonde méditation sur le Dieu inconnaissable des philosophes. Un peu plus loin, dans ce même passage, le Dieu inconnaissable est défini par l'usage de notions en triade comme être, vie et pensée. Et c'est le deuxième texte que je vous cite sur l'exemplier. Il est quelque chose dans la mesure où il est, et parce qu'il est et sera, ou parce qu'il agit ou parce qu'il connaît, alors qu'il vit sans avoir d'intelligence, ni de vie, ni d'existence, ni de non-existence, d'une façon qui nous est incompréhensible. Toutes ces qualités qui pourraient définir le Dieu transcendant ne conviennent pas à dire ce qui lui est propre. Et ce traité halogène énumère un certain nombre d'arguments tirés des commentaires philosophiques du Parménide de Platon, le Dieu transcendant qui est au-delà de l'un. Il transcende toutes les catégories. C'est le texte numéro 3. Non plus ne peut-il être diminué d'aucune façon par son propre désir, soit en donnant, soit en recevant d'un autre. Non plus a-t-il désir provenant de lui-même ou d'un autre, cela ne l'atteint point, mais non plus ne donne-t-il rien de lui-même de sorte qu'il ne soit diminué d'une autre façon. C'est pourquoi il n'a besoin ni d'intellect, ni de vie, et ni à vrai dire de rien. Il est supérieur au tout, etc. De telles méditations sur le Dieu transcendant vont de pair avec des rituels d'ascension de l'âme. Le traité zostrien présente un ensemble de baptêmes spirituels qui accompagnent la montée de l'âme vers les lieux inconnaissables des éons. Ainsi, zostrien est instruit des lieux sur lesquels règnent les autogenes, protophanes, kaluptos. Et plus on se rapproche de la transcendance, plus on entre dans la béatitude silencieuse des luminaires qui accompagnent le trône divin. Comme ce genre de révélations sont transmises dans un genre littéraire de l'apocalyptique juive, avec un visionnaire qui fait un voyage dans les cieux, accompagné d'un ange interprète des mystères divins, on peut comprendre que Plotin traite ce genre de révélations, je cite, de fables tragiques, et qu'il méprise les gnostiques qui prétendent, je cite, toucher l'intelligible de par leur propre puissance. Plotin n'aime pas non plus la multiplicité des êtres divins dans les différents espaces célestes que créent les gnostiques. Et je cite, c'est le texte numéro 4, parce qu'ils donnent des noms à une multitude d'intelligibles. Ils croient qu'ils auront l'air d'avoir découvert l'exacte vérité, alors que c'est justement par cette multiplicité qu'ils conduisent la nature intelligible à ressembler à la nature sensible. Il est vrai que les panthéons de certains gnostiques ressemblent aux histoires classiques de la cour des dieux dans la mythologie de l'Olympe. Et cela ne suffit pas à faire des gnostiques de bons philosophes platoniciens. Alors, encore quelques exemples tirés cette fois-ci des grands courants gnostiques connus au IIe, IIIe siècle. D'abord, les Valentiniens, dont on a déjà évoqué l'existence. Imaginez donc qu'avec cette découverte de Nag Hammadi, on a, grâce à des textes coptes aujourd'hui, multiplié par presque 10 le nombre de pages connues, antiques, sur les Valentiniens. Jusqu'à présent, jusqu'à la découverte de Nag Hammadi, le valentinisme n'était connu que principalement par le témoignage d'Irénée dans son Contre les hérésies et quelques citations chez des auteurs chrétiens anciens. Irénée n'a pas connu Valentin directement, lui qui a enseigné à Alexandrie vers les années 130, puis à Rome quelques années plus tard. Irénée ne parle des Valentiniens qu'à partir du témoignage d'un disciple de Valentin, Ptolémée. Aujourd'hui, on peut maintenant comparer les sources anciennes citées par les écrivains chrétiens et on peut utiliser les sources nouvelles de Nag Hammadi. Des œuvres valentiniennes, on connaît des fragments du maître, Valentin, cités essentiellement par Clément d'Alexandrie. C'est à peine quelques pages de texte grec. Mais on connaît aussi Ptolémée et sa lettre à Flora, un traité d'herméneutique du texte biblique. Comment lire le texte biblique juif en tant que chrétien. On connaît des extraits du commentaire de l'évangile de Jean par Héracléon, réfuté par le commentaire d'Origène sur ce même évangile. On connaît des extraits rassemblés par Clément d'Alexandrie, provenant d'un autre disciple encore, Théodote. Et Irénée nous donne aussi une notice sur un certain Marc qualifié de mage dans son Contre les hérésies. Mais grâce à la documentation de Nag Hammadi, on a maintenant une série de textes nouveaux qui nous attestent les doctrines des Valentiniens dans le Codex 1, précisément, le Codexium. On a une prière de Paul, l'épître apocryphe de Jacques, l'évangile de vérité, le traité sur la résurrection, le très long traité tripartite. Mais au-delà de ça, on a l'évangile selon Philippe dans le Codex 2, deux apocalyptes de Paul et de Jacques dans le Codex 5, deux textes du Codex 11, l'exposé valentinien et l'interprétation de la connaissance. Et pour illustrer cette doctrine valentinienne, on peut prendre, je pense, l'exemple de la prière de Paul. C'est le texte numéro 5 que vous avez sous les yeux et qui ouvre le premier codex. J'en extrais quelques lignes attribuées à Paul qui présentent le cheminement du gnostique dans sa quête de salut. « Donne-moi ta miséricorde, mon rédempteur, sauve-moi, car je suis à toi, je suis engendré de toi, tu es mon esprit, engendre-moi. » Tu es mon trésor, ouvre-moi. Tu es mon plaireau, prends-moi pour toi. Tu es mon repos, donne-moi la perfection dont on peut s'emparer. Je t'invoque, toi qui es et préexistes, par le nom qui est au-dessus de tout nom, par Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des siècles. Donne-moi tes dons sans les regretter, par le Fils de l'homme, l'Esprit, véritable paraclet. Donne-moi la puissance, ainsi que je te le demande par l'évangéliste. Sauve mon âme de lumière à jamais, ainsi que mon esprit. Et le premier-né du pléroum de grâce, révèle-le à mon esprit. Cette prière apocryphe résume l'objet de la quête du gnostique valentinien. Comme l'a très bien dit Christian Jambet tout à l'heure, c'est une recherche du salut par l'intermédiaire du nom du Sauveur. Et cette quête est définie comme un engendrement spirituel grâce à des figures connues du Nouveau Testament. Mais la figure du Sauveur est essentiellement celle qui dispense un message évangélique. Dans un autre texte valentinien, l'Évangile de vérité explicite cette référence au nom du Sauveur en référence à l'épître de Paul aux Philippiens, à propos du nom qui est au-dessus de tout nom, un nom qui sert à valoriser le nom imprononçable de Dieu, les quatre lettres hébraïques qui forment son nom, avec des spéculations sur le sens de ces quatre lettres, comme dans les cercles ésotériques de la mystique juive. En même temps, l'Évangile de vérité développe une méditation sur le nom du Sauveur qui manifeste l'accès au nom imprononçable du Père. Et c'est le texte numéro 6. Le nom du Père est le Fils, c'est lui qui, dans le principe, a donné nom à celui qui est sorti de lui, qui était lui-même, et il l'a engendré comme Fils. Il lui a donné son nom qui lui est bien propre, lui à qui sont toutes choses qui sont auprès de lui le Père. Il a le nom, il a le Fils, on peut le voir. Mais le nom, au contraire, est invisible parce que lui seul est le mystère de l'invisible destiné à parvenir aux oreilles qui sont toutes remplies de lui. Et un peu plus loin, et c'est le texte numéro 7, toujours dans cet évangile de vérité à la page 40, qu'est-ce que le nom? C'est lui le nom authentique. Il est en effet le nom qui vient du Père, c'est lui qui est le nom propre. Il n'a donc point reçu le nom à titre d'emprunt comme les autres, selon le mode particulier suivant lequel chacun d'eux est produit. Celui-ci, au contraire, est le nom propre. En grec, kurion onoma. Il n'y a personne d'autre à qui il est donné, mais il est innommable, indicible, jusqu'au moment où lui, celui qui est parfait, l'a exprimé seul, et c'est lui qui avait le pouvoir de proclamer son nom et de le voir, etc. Ces quelques lignes extraite d'un chapitre qui couvre au moins 3 pages sur le même sujet, montre, s'il le fallait, combien les Valentiniens développent une théologie chrétienne inspirée des textes bibliques et des doctrines chrétiennes anciennes en cours de formation. On pourrait même penser à Moulin Sadra, dans certaines pages, sur les noms divins. On pourrait l'illustrer avec bien d'autres textes encore. Retenons que l'Évangile de vérité est un bel exemple de création au début du second siècle d'un traité qui ressemble à une homilie ou à un enseignement sur la christologie ancienne. Le Fils est le nom du Père et seul le Fils donne accès au nom du Père. À cette période, il n'existe pas encore de Bible chrétienne et ce que nous connaissons dans les reliures des Bibles aujourd'hui, composé d'un groupe d'écrits appelés par les chrétiens « Ancien Testament » et d'un autre groupe d'écrits qualifiés de « Nouveau Testament ». Dans les premières années du christianisme, les chrétiens n'avaient que la Bible juive comme texte de référence, et on peut comprendre les difficultés rencontrées par ces chrétiens qui cherchent à exprimer leur foi chrétienne tout en respectant le contenu de la révélation biblique. Les Valentiniens étaient conscients de cette lourde question. Comment lire en chrétien la Bible juive? Et c'est Ptolémée, le disciple de Valentin, qui a consacré ce traité sur ce sujet en réponse à la préoccupation d'une certaine Flora. Ce traité est conservé par Épiphane. On y trouve une explicitation sur la méthode d'exégèse des chrétiens qui cherchent à lire cette Bible juive de manière chrétienne. C'est le texte numéro 8. Que la loi proclamée par Moïse, ma bonne sœur Flora, n'a pas été comprise jusqu'à maintenant par beaucoup de gens, parce qu'on avait acquis une connaissance précise ni du législateur véritable, ni de ses commandements, cela vous sera bien clair, je pense, quand vous aurez appris les opinions contradictoires qui ont cours sur elle. Quelques-uns disent que cette loi a été donnée par Dieu le Père lui-même. D'autres, dans une direction diamétralement opposée, assurent qu'elle provient de l'adversaire, du diable corrupteur, de la même manière qu'il lui attribue aussi la création du monde, affirmant que c'est lui le Père et le Créateur de cet univers. les uns et les autres sont complètement dans l'erreur. Leurs contradictions se réfutent réciproquement, chacun de son côté n'a pas réussi à saisir la vérité de son sujet. Il faut comprendre que ces quelques extraits que les Valentiniens cherchent à conserver, l'essentiel du cœur de la loi juive, la législation pure, comme il disait, « tu aimeras Dieu tout ton cœur et ton prochain comme toi-même », tout en proposant d'abolir certains commandements de Moïse devenus caducs, certaines lois sur les sacrifices. Et quant aux traditions transmises par les anciens, ce qu'ils appellent la législation dans ce traité, législation typique et symbolique, il faut savoir l'interpréter spirituellement, allégoriquement, à partir de la manière dont le Sauveur a proposé lui-même de la transposer du monde sensible au monde spirituel invisible. Ainsi, les sacrifices doivent être effectués non pas avec des bêtes privées de raison, ni au moyen d'offrandes de parfums, mais avec des louanges, des glorifications, des actions de grâce spirituelles par la charité et la bienfaisance envers le prochain. On retiendra aussi des Valentiniens qu'ils montrent un certain goût prononcé pour l'exégèse des textes bibliques, comprise comme une lecture de la Bible à partir des textes platoniciens. Dans le traité tripartite, justement, du Codexa de Nag Hammadi, quand il est question du scénario de la création, tiré de la Genèse biblique, c'est effectivement la Genèse biblique expliquée avec le cadre du traité du Timée de Platon. On a ainsi parlé des Valentiniens comme de platoniciens bibliques ou des biblistes platonisants. Les textes de Nag Hammadi offrent maintenant un nouveau moyen de les étudier à partir de leurs textes originaux. Un deuxième exemple de texte gnostique, cette fois-ci basilidien, l'autre forme de gnose apparaît dans les notices des hérésiologues et se trouve aujourd'hui confirmée par les textes gnostiques coptes de Nag Hammadi. C'est la forme de gnose que l'on trouve à Alexandrie au début du second siècle, sous l'impulsion de Basilide, un contemporain de Valentin. Mais Basilide n'a pas laissé autant de traces que son contemporain ou de ses disciples. Et Irénée nous donne dans son « Contre les hérésies » une série d'enseignements sur la compréhension de la transcendance, la cosmologie, l'existence des anges, un système avec 360 cieux. Quand il est question du Sauveur, Irénée résume la doctrine originale des basilidiens en rapportant ceci, et c'est le texte numéro 9. « L'intellect, le premier né du Père, celui qu'on appelle le Christ, est apparu sur terre sous la forme d'un homme. Il accomplit des prodiges, ne souffrit pas lui-même la passion, car un certain Simon de Cyrène fut réquisitionné et porta la croix à sa place. C'est ce Simon qui, par ignorance et par erreur, fut crucifié après avoir été métamorphosé par lui pour qu'on le prie pour Jésus. Quant à Jésus lui-même, il prit les traits de Simon et, se tenant là, se moqua des archontes. » Ce scénario tout à fait original crucifixion est fondée sur cette anecdote rapportée par les évangiles canoniques, le fait que Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Mais l'interprétation des basilidiens, selon Irénée, va jusqu'à faire crucifier Simon de Cyrène à la place de Jésus, car un intellect divin ne peut pas souffrir. En revanche, on remarquera que Jésus se moque de la méprise de ceux qui crucifient Simon à la place de Jésus. Et un peu plus loin dans cette notice d'Irénée sur ce sujet, on voit la position théologique des basilidiens de la façon suivante, c'est la fin du texte numéro 9. « On ne doit pas confesser celui qui a été crucifié, mais celui qui est venu sous forme humaine et a paru crucifié, a été appelé Jésus, a été envoyé par le Père pour détruire par cette économie les œuvres des auteurs du monde. Si quelqu'un confesse le crucifié, dit Basilide, il est encore esclave et sous la domination de ceux qui ont fait les corps. Mais celui qui le renie est libéré de leur emprise et pourra connaître l'économie du Père inengendré. » Il faut interpréter ce genre d'affirmation théologique comme une véritable opposition au tenant de la théologie paulinienne qui souligne dans 1 Corinthiens 2 le Christ crucifié comme seule compréhension de l'événement fondateur du christianisme. Si l'apôtre Paul est devenu une référence obligée dans la théologie chrétienne orthodoxe, les basilidiens témoignent de contestation au IIe siècle de notre ère contre la théologie paulinienne. Et plus étonnant encore est cette façon qu'ont les basilidiens de présenter leur doctrine anti-paulinienne comme une façon de valoriser positivement le reniement de Pierre. Le reniement est conseillé dans la mesure où il sert à renier la vénération du corps crucifié du Sauveur, car il relève de l'autorité des anges et des archontes qui règnent sur le monde terrestre. Il faut au contraire renier le corps du Christ crucifié, car seul est valable pour les basilidiens le corps ressuscité du Sauveur. Cette interprétation de la crucifixion se trouve maintenant confirmée par les textes de Nag Hammadi dans le Codex 7, le deuxième traité du Grand 7 et l'Apocalypse de Pierre, tous deux dans une version copte. Mais comme la notice d'Irénée, dans cette notice, la figure de Jésus est celle d'un Jésus qui rit ou qui se moque des disciples qui ne comprennent pas le sens de la crucifixion, en fait, on voit que ce scénario propose la crucifixion d'un substitut. L'Apocalypse de Pierre tient aussi l'apôtre Pierre pour le destinataire de cette révélation. Pierre est exhorté à prendre courage face à l'adversité. Pierre est le représentant d'un petit reste d'Église à qui il faut apprendre les fondements de la foi chrétienne. Pierre est alors conduit par le Sauveur jusque devant la croix pour recevoir l'interprétation curieuse des basilidiens sur la figure lumineuse du Sauveur qui ne peut pas souffrir et la figure charnelle de son substitut qui seul assume la mort en croix véritable. On retrouve, et ça ne vous étonnera pas, une interprétation semblable de cette crucifixion dans la sourate 4, aux lignes 157-158 du Coran. Ça mériterait un long développement, on pourrait en discuter. J'en reste à la compréhension de la christologie basilidienne qui est accompagnée dans l'Apocalypse de Pierre d'une vive polémique contre les tenants de l'Église adverse. L'auteur basilidien critique la christologie paulinienne des adversaires, mais aussi leur manière de faire peser sur les croyants une loi sur la rémission des péchés et sur les règles liées au baptême pour ceux qui pêchent après leur baptême. Autrement dit, ce qui transparaît sous forme de critique de la christologie particulièrement paulinienne, doit être aussi une critique des controverses suscitées par la mise en place des pratiques de rémission des péchés et des pratiques de la pénitence dès le IIe siècle. Au-delà des informations sur la doctrine basilidienne que peut nous donner un texte copte comme l'Apocalypse de Pierre, on découvre ainsi, au-delà de l'histoire des mouvements gnostiques, des traces de grandes controverses qui ont agité les premières générations du christianisme ancien. Avec les textes de Nag Hammadi, on peut donc participer à reconstruire progressivement l'histoire du christianisme à condition de se laisser guider par les questions historiques que soulève cette découverte. J'aurais volontiers fait, mais je vois que l'heure avance, un paragraphe sur l'évangile de Judas. J'en reste peut-être à quelques mots de conclusion. Nous pourrons revenir à l'évangile de Judas si cela vous intéresse. Et pour conclure, il me semble qu'il faut souligner avec ces quelques extraits de texte et ces questions historiques soulevées par la gnoscopte, ça avait pour but de vous rendre attentif au bouleversement magistral dans les sciences de l'Antiquité qu'apportent les découvertes de ces manuscrits gnostiques. On pourrait encore illustrer d'autres formes de gnose, la gnose dite sétienne, la spiritualité ascétique d'un texte comme Thomas d'Athlète, ou les textes de la sagesse égyptienne que l'on qualifie dans le corpus hermétique. Il importe aujourd'hui d'étudier et de commenter ces textes avec le recul nécessaire à tout travail historique. On ne peut plus prendre en compte les propos des hérésiologues sans les critiquer d'un point de vue critique et littéraire. Il faut effectivement découvrir alors les questions nouvelles sur la documentation directe des gnostiques, mais aussi en les critiquant, en relisant les documents des écrivains chrétiens eux-mêmes. Dans la masse de ces documents nouveaux, on relèvera que les gnostiques apparaissent comme ces formes d'écoles de philosophie et de sagesse inspirées par les textes bibliques. Parmi les documents les plus célèbres de la documentation de Nag Hammadi, les paroles de Jésus dans l'évangile de Thomas constituent une réserve de questions sur la vie spirituelle de tout le christianisme ancien, et je pense pour de nombreuses générations encore. Et les querelles suscitées par la publication récente de l'évangile de Judas ou le fameux évangile de la femme de Jésus, dont je redis que c'est un faux, ne doivent pas faire oublier que l'arbre ne cache pas la forêt de tous ces textes qui feront l'objet de recherches, encore pour plusieurs générations de chercheurs en histoire du christianisme ancien. Je vous remercie.